présentation qui va se faire vraiment 9 minutes, qui me concerne. En fait, je me rends compte que mes travaux des dernières années, et ça fait quand même presque, c'est pas loin de 10 ans en fait, c'est assez paradoxal. En fait, bon, la relève peut quand même, on peut se relever pendant assez longtemps. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment des sujets qui sont émergents donc, et qui concernent, dans mon cas, des produits culturels québécois en ligne. Mais quelles sont les nouvelles modalités de ces produits culturels-là? Et est-ce que ces nouvelles modalités de diffusion, spécifiquement, amènent des nouveaux enjeux? Alors, ça a été ça un peu qui a été le fil conducteur de mes recherches. La particularité, c'est que tout ça se fait via une perspective vraiment québécoise. Donc, québécoise dans le sens produits culturels au Québec ou produits culturels québécois. Les premiers travaux qui ont d'ailleurs coïncidé avec des commandes de la disque sur le sujet du temps que j'étais à la maîtrise à l'INRS concernaient la distribution des produits culturels musicaux, de la musique sur Internet au Québec. Qu'est-ce qu'on pouvait comprendre de ça? Et à l'époque, vers 2007, c'était quand même assez particulier parce que c'était très, très changeant comme environnement. iTunes commençait à devenir un peu le leader, mais c'était vraiment, il y avait une espèce de bouleversement qui se passait. Et la disque, entre autres, voulait savoir comment ça marche, comment ça fonctionne et est-ce qu'on peut faire une espèce de cartographie des flux de bits et des flux financiers dans une espèce de modèle de distribution de musique. Autant modèle d'écoute, qui à l'époque était vraiment très, très embryonnaire, et modèle de téléchargement. Et finalement, ça a permis, entre autres, d'observer le système et de se rendre compte, avec l'analyse, que pour le Québec, la répartition des flux était complètement débalancée en termes d'un acteur qui prenait à peu près tout l'ensemble de la couverte, finalement, qui étaient les fournisseurs d'accès Internet, qui bénéficiaient énormément de cette musique-là. Et les répartitions du reste dans le flux étaient presque... Il y a eu certains cas où on voulait avoir des données, les gens ne pouvaient même pas nous en donner parce que peut-être qu'il n'y en avait même pas à l'époque. Donc, ça montre un peu des débalancements dans ces flux-là, adaptés à une nouvelle modalité de diffusion. Les deuxièmes... par la suite, ces travaux-là ont amené à réfléchir à la question aussi des nouvelles modalités de diffusion, de transmission, qui était la diffusion un peu... Là, on passe de la culture tarifée ou de la produit culturel tarifé vers la culture des gratuités, et c'est-à-dire d'essayer d'observer le piratage, notamment de la musique, en ligne, au Québec. Est-ce que ça existe tout à coup? C'est une modalité qui existe? Si on le regarde indépendamment de tout a priori, puis on se dit, bon, mais c'est un nouveau modèle qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est? Et on a fait une observation directe via une collaboration INRS et Observatoire de la culture, qui a permis, entre autres, d'observer, ça ne s'était pas fait vraiment avant, parce que c'est des questions qu'on considère, en fait, c'est un espèce de modèle un peu alternatif qui se développait, mais l'observation, c'était que paradoxalement, ça rejoint tout à fait ce que M. Larrivé disait tout à l'heure, la passion des Québécois envers la musique québécoise se reflétait jusque dans le piratage, où, dans certaines observations, 50% de ce qui était piraté était québécois. Donc, alors que les gens ont accès à n'importe quoi, bien, finalement, ils piratent de la musique québécoise. Donc, pourquoi? Et alors, grattant un peu en voyant qu'est-ce qu'ils pirataient, on se rendait compte que souvent, c'est des choses qui n'existaient même pas en vente libre à l'époque. Évidemment, maintenant, j'imagine que tout ça est disponible, j'espère, mais ça montrait finalement, le but de tout ça, ça pointait l'enjeu de la disponibilité des contenus en observant un modèle alternatif comme le piratage. Et ceci amène un doctorat que je débute avec sous la direction d'Anouk Bélanger à l'UQAM ici en sociologie sur toujours l'idée de culture de la gratuité, mais sur la question des médias sociaux. Est-ce que les médias sociaux comme plateforme peuvent nous renseigner sur une dynamique culturelle québécoise et est-ce que il y a de la culture québécoise qui est diffusée sur les médias sociaux? Est-ce qu'il y a des produits culturels de musique, de films, de télévision? Qu'est-ce qui est diffusé? Qu'est-ce qui est apprécié? Qui le met? Qu'est-ce qui se passe? Pour essayer de mieux comprendre un peu le nouveau modèle de diffusion avec des enjeux que ça touche au Québec, qu'est-ce que ça peut nous révéler aussi du rapport qu'on a, de la transformation des structures numériques, mais aussi du rapport des gens par rapport à leur propre culture. Et on pourra certainement, on espère, apprendre des choses un peu nouvelles, c'est-à-dire peut-être que finalement les gens sont... Est-ce que les gens sont très, très... sans dire passionné, on le sait qu'il y a une passion, mais est-ce que les gens recherchent la culture québécoise sur Internet? Est-ce qu'elle est représentée? Est-ce qu'elle est appréciée? Qui la met? Est-ce que certaines personnes deviennent des prescripteurs de goût en mettant toutes les émissions des années 80 de télé qui sont introuvables sur Internet? Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour des marchés là-dessus, etc.? Est-ce que finalement les médias sociaux contribuent? Ça, c'est toutes des questions qui vous touchent directement à une certaine diversité culturelle dans la circulation des contenus, ou au contraire, non, il n'y a pas vraiment de culture contenu québécois et les gens sur les médias sociaux cherchent Beyoncé avant toute chose. Ce que je ne pense pas, parce que nos premières observations, c'est qu'en fait, il y a vraiment un intérêt pour la culture québécoise sur les médias sociaux là, de façon assez majeure, mais il faut l'observer. Alors, voilà le futur des recherches dans les prochaines années. Je ne sais pas si je fais à peu près 9 minutes, j'ai encore quelques minutes. Et ce qui est intéressant de ces questions-là, par exemple, parlons un peu plus de la question des médias sociaux, c'est que ça touche en fait la question des effets collectifs de pratiques individuelles. Puis c'est là que ça devient un peu particulier, c'est que jusqu'ici, on a beaucoup regardé dans les régulations la question de réguler la diffusion, le broadcast, entre guillemets, de... par rapport via les quotas, qui ont vraiment une incidence très, très grande dans les années 80, on savait, par exemple, qu'il y avait un pourcentage de quotas qui devait être respecté, qui était respecté dans la plupart des cas, avec, évidemment, toutes sortes de conflits, etc. Mais maintenant, peut-être qu'on peut voir aussi cette question-là du point de vue individuel, c'est-à-dire l'individu qui va sur les médias sociaux, mais est-ce que si beaucoup d'individus autonomes vont sur des médias sociaux, par exemple, ce qui est l'objet de mes recherches actuellement, mais la masse critique de ces gens-là fait un effet collectif s'ils vont voir des contenus québécois. Et c'est ça le paradoxe où on peut retrouver une certaine forme de, pas de quota, parce que c'est pas la logique du quota, mais on peut retrouver une certaine forme de diversité venant d'un ensemble de gens qui sont sur des plateformes où il n'y a pas de régulation de cet ordre-là. Et là, une des questions que ça amène, c'est, advenant le cas que réellement les Québécois sur les médias sociaux s'intéressent aux vieilles séries des années 80, que personnellement j'aimerais bien pouvoir revoir régulièrement, et aux des disques introuvables, des spectacles, etc., est-ce que ça vient entre autres du fait qu'il y a réellement, de façon hors ligne, une promotion de la culture québécoise qui fait que là, il y aurait une tension entre en ligne et hors ligne, c'est-à-dire pour s'assurer que les gens sur les médias sociaux fasse circuler la culture québécoise, il ne faut pas lâcher la culture québécoise, la promotion. Au contraire, il faut la renforcer pour s'assurer que ça se traduise également dans un environnement numérique. Donc ça, c'est un peu une des hypothèses, c'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas penser tout contrôler, se dire que sur Internet, on va contrôler chaque comportement individuel, c'est assez complexe tout ça, mais ça se peut que les Québécois soient très intéressés par la culture québécoise. Ceci dit, comment maintenir ça, comment promouvoir ça, comment... Donc, est-ce qu'il y a un lien hors ligne, en ligne, à dégager avec ces recherches-là, qui seraient la prochaine étape?